Ben, on n'a même pas d'idée, on sait pas ce qu'on va faire ce week-end.
C'est pas grave, on écoutera la JT du local. Ils ont toujours de bonnes idées.
Chers auditeurs, bienvenue dans l'Agité du local. Dans cette émission, aujourd'hui, on vous parle du défi d'une assiette bas carbone mis en place par les trois communautés de communes du Sud Mayenne avec Louise Morel qui est avec moi en studio aujourd'hui. Bonjour Louise Morel.
Bonjour.
On va parler ensemble de ce projet qui est mis en place sur l'année scolaire 2023-2024 avec six cuisines pilotes volontaires sur le pays de Cran, pays de Château-Gontier et pays de Mélégré. On va plus précisément en parler dans quelques instants. On va terminer également notre visite, notre découverte de l'espace Saint-Julien à Laval avec la cale Le Café Solidaire. Lucie n'est pas avec moi aujourd'hui, mais elle m'a laissé ce dernier reportage que l'on découvrira ensemble en deuxième partie d'émission. Et puis avant de vous laisser, on termine l'émission par l'agenda culturel, comme chaque vendredi, évidemment. Chers auditeurs, je vous propose un regard sur les gros titres de votre hebdomadaire Le Haut en Joue sorti aujourd'hui. On commence avec le Refuge de l'Arche à Saint-Fort qui sollicite les Mayennais en lançant une campagne pour faire appel à notre solidarité. Après avoir sollicité les départements et la région, Jean-Marie Mulon fait appel aux Mayennais pour faire face à l'augmentation de son budget de fonctionnement. Ensuite, on s'intéresse à Fabrique Crignou, qui est installé à son compte en tant que maréchal ferrant au mois d'août à Tremblay. Alors Fabrice a la particularité de poser notamment des fers en plastique à la place du traditionnel fer en métal. Et pour terminer, le Haut en Joue revient sur l'action d'agriculteurs en Mayenne et Maine-et-Loire qui a lieu le samedi 18 novembre dans plusieurs communes où les panneaux d'entrée de ville et de village ont été retournés. Vous l'avez sans doute remarqué, il s'agit d'une action destinée à mettre en lumière le mécontentement de la FDSEA concernant les incohérences politiques. Je le disais tout à l'heure, Louise Morel est avec nous. Vous êtes animatrice sur le projet alimentaire territorial qui a pour objectif de promouvoir une alimentation locale et durable sur le territoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de m'accueillir.
Alors, quel est plus précisément ce projet qui est mis en place au niveau donc, de la restauration dans le sud Mayenne ?
Oui, alors juste pour recontextualiser, donc moi je travaille, c'est ça, au sein d'un service énergie-climat GAL Sud-Mayenne, donc c'est un service qui est mutualisé à l'échelle des trois comités de communes du Sud-Mayenne, donc Pays de Cran, Pays de Château-Gontier et Pays de Mélégré. Et donc en fait depuis 2020, les trois collectivités portent un projet alimentaire territorial, donc le but c'est de promouvoir une alimentation locale, de développer les circuits courts et donc de renforcer les liens entre les producteurs, les consommateurs et puis aussi les distributeurs, enfin tout ce qui façonne notre alimentation. Et dans ce cadre-là, on a, dans le cadre de ce PAT, on a un gros axe qui concerne la restauration collective et donc de réintroduire des aliments locaux de qualité dans la restauration collective. L'objectif, c'est de permettre aux convives de se nourrir avec des aliments produits à proximité, qui soient diversifiés et puis qui soient au plus proche aussi des saisons et issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'est née cette opération, parce qu'on a déjà eu des formations pour accompagner les agents de la restauration collective. Ça poursuit le processus. Et il faut rappeler que la restauration collective, ça représente 7 milliards de repas chaque année. Donc, la restauration collective, c'est ce qu'on a dans les hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux, mais aussi les établissements scolaires. Donc voilà, ça concerne un gros bloc et c'est un vrai levier d'action sur lequel on peut proposer aussi des solutions.
L'idée là, c'est donc de travailler sur notre impact énergétique, écologique, mais aussi sur la qualité de l'alimentation.
Oui, complètement. C'est de poursuivre, de s'appuyer sur des cuisines qui sont déjà un peu pilotes en Sud-Mayenne, donc qui ont déjà qui sont déjà avancées sur des pratiques qui vont vers plus de local, plus de qualité. Et donc, c'est d'essayer de voir, de mesurer, en fait, les gains environnementaux qui sont générés par le changement de pratique en cuisine. Donc, par exemple, si je décide de m'approvisionner... avant, j'avais un approvisionnement de carottes à l'échelle nationale, même européenne. Et là, je décide de réintroduire dans les assiettes une carotte bio et locale. Bah, quel gain ça va générer ? Donc, en fait, on va s'appuyer sur l'idée, c'est d'accompagner plusieurs cuisines du Sud Mayenne, donc 6 au total, à prendre en main un outil qui s'appelle Cool Food Pro. Donc c'est un outil pour mesurer les gains environnementaux générés par le changement de pratique et donc pour étudier en fait l'impact de ces menus sur l'environnement, donc étudier voilà, les gains sur le climat mais aussi sur l'eau, sur la biodiversité. Donc on a des calculateurs voilà, qui génèrent en fait cette quantité-là.
Ça c'est une application en fait.
C'est une application qui est en ligne et qui est gratuite, qui a été développée dans le cadre d'un programme européen France-Angleterre l'année dernière et l'année d'avant encore. Et donc concernant ce calculateur Cool Food Pro, c'est le CIVAM Bio 53, donc qui est référent en Mayenne et qui nous appuie et qui anime en fait auprès de ses cuisines la prise en main de l'outil, mais aussi accompagner ses cuisines dans le changement de pratique, parce que l'idée c'est de partir aussi sur des choses qu'ils veulent mettre en place de nouveau, réintroduire. Et il y a 5 leviers principaux avec cette application. Donc plus de local, donc acheter des produits qui sont faits à proximité pour réduire l'impact CO2 du transport, plus de bio, donc qui correspond aussi aux objectifs de la loi Egalim, donc plus de bio, cultiver cultiver sans produits chimiques et sans ni OGM, donc qui préserve l'environnement et la santé, plus de saison, donc des produits qui respectent le cycle de la saison, plus de viande, enfin moins de viande mais de meilleure qualité, et puis moins de gaspillage alimentaire. Donc c'est ces 5 leviers là que l'application Cool Food Pro propose, et ensuite c'est les établissements, les restaurants collectifs, en tout cas là les restaurants scolaires qui sont engagés, qui choisissent de développer d'agir sur un levier ou plusieurs selon aussi leur marge de manœuvre. Donc on a une majorité voilà qui est sur le levier plus de local et plus de bio, et voilà.
Et alors, est-ce que c'est un projet qui met du temps à mettre en place, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement, on a, c'est vrai, on a les acteurs locaux, nos producteurs, entre guillemets, à portée de main. Combien de temps ça met à se construire un projet comme celui-ci?
Vous voulez dire Cool Food Pro précisément, autour de l'arrêt de réintroduire une alimentation, c'est ça, locale.
La réintroduction, faire le lien entre toutes ouais. ces personnes qui vont pouvoir intervenir dans ce projet.
Alors Cool Food Pro, c'est un outil qui est support, donc c'est pour appuyer en fait les changements qu'ils font au sein de leur cuisine. Et l'idée à travers ce projet, c'est aussi de communiquer et valoriser sur ce qu'ils font déjà et ce qu'ils vont faire. Donc de mettre en lumière aussi, et la restauration collective, hein, justement à mettre une alimentation de qualité dans les assiettes des convives, forcément c'est un projet collectif, on change pas du jour au lendemain.
Bien sûr.
Donc c'est un projet où on a un cuisinier, des cuisinières qui sont investis, volontaires, qui sont engagés dans cette démarche-là, mais aussi des élus, notamment quand c'est des cuisines qui sont gérées par les communes, voilà, qui sont investis sur cette question-là. Donc c'est vraiment un travail important, et où on a aussi les producteurs qui viennent à côté, mais aussi les parents d'élèves et aussi bien sûr les convives qui sont les premiers concernés. Mais voilà, c'est un projet qui met du temps pour réintroduire une alimentation locale de qualité. Et tous ne sont pas au même niveau, tout dépend aussi des engagements, et c'est une vraie décision politique aussi. Bien sûr, il y a la loi Egalim qui pousse aussi et qui aussi impose un certain nombre de pourcentages de produits locaux et de qualité, mais voilà, c'est vraiment une décision avant tout de politique sur ce sujet-là.
Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a une sensibilisation aussi peut-être qui est prévue auprès des enfants, par exemple, des établissements scolaires par rapport à ces enjeux-là?
Alors ça va être propre à chaque établissement. Là, nous, on a décidé avec justement le CIVAM Bio d'appuyer ces différentes cantines à s'approprier l'outil Cool Food Pro, parce qu'il faut rentrer un peu ces données chaque mois en fait. Mmh. Et puis après, il y a des affiches qui permettent de générer les gains environnementaux, carbone générés. Donc déjà, nous, ils sont accompagnés sur ce sujet-là pour prendre en main l'outil. Puis après, c'est les établissements, les restaurants collectifs avec les établissements scolaires, s'ils le souhaitent, de mettre en place d'autres actions, animations qui vont venir en complément. Mais en tout cas, nous, on ne va pas s'occuper là de l'animation directement dans les établissements scolaires.
D'accord. Et donc, ce projet, il a commencé en septembre 2023. Il s'étend donc sur tout le long de l'année scolaire. Cette année, c'est un peu peut-être une année test pour voir un peu ce qui se passe, quels sont les résultats?
Oui, exactement. C'est une année test. C'est pour ça qu'on a démarrer avec des cuisines qu'on dit pilotes, et voilà, qui sont motivées, qui sont déjà bien avancées, et pour essayer d'identifier justement et de montrer aussi à la fois auprès du grand public, auprès des habitants, auprès des élus, pour valoriser aussi les cuisiniers et cuisinières, le véritable impact que ça a de réintroduire plus de local, plus de bio, moins de viande mais de meilleure qualité, moins de gaspillage alimentaire, plus de saisonnalité, voilà, ce que ça produit en fait sur notre territoire, ce que ça génère pour aussi encourager, l'idée c'est de pouvoir encourager d'autres cantines qui se poseraient des questions ou en tout cas qui souhaiteraient aussi changer et faire évoluer leurs pratiques à réfléchir là-dessus. Ouais.
Et alors cette évolution des pratiques, est-ce que ça engendre un coût supplémentaire d'acheter local ou pas du tout en fait, parce que des fois il y a des préjugés comme ça qui peuvent circuler.
Oui, il y a beaucoup de préjugés. Ça serait aux cuisiniers d'en parler le mieux puisque c'est eux les plus concernés, mais on note pas, en tout cas ceux qui, il y a pas d'augmentation de budget pour ceux qui ont fait ces changements là déjà depuis quelques années. Il y a pas d'augmentation de budget puisque les produits locaux sont beaucoup moins soumis en fait aux aléas et aux perturbations qu'on peut avoir à une échelle nationale voire européenne. Donc forcément il y a pas d'augmentation de budget. C'est plus en fait c'est un équilibre, la restauration collective. C'est au plus on diversifie, au plus on va avoir un équilibre sur le budget qui va être intéressant. Et c'est pour ça que c'est de diversifier toutes les sources de protéines aussi. C'est un jeu d'équilibre pour avoir des prix en tout cas qui soient attractifs et qui soient pas... Ce qui est l'idée, c'est pas non plus d'augmenter, c'est de permettre aux convives et d'avoir accès à un repas de qualité au moins une fois par jour.
Et alors, si ce projet apporte des résultats positifs, est-ce qu'il y a déjà peut-être en tête un élargissement de ce projet ou d'autres perspectives pour l'avenir ?
Pour l'instant, pas encore. On va voir comment ça va se passer. C'est aussi déjà de voir comment ça se passe avec la prise en main de cet outil-là. Et puis ensuite, on verra progressivement. Mais déjà, l'idée aussi à travers ça, c'est de reparler aussi de la restauration collective, de reparler. Là, c'est principalement des restaurants scolaires. Je les ai pas cités, mais je vais aussi peut-être les citer.
Bien sûr.
Qui sont engagés là-dessus. Et puis ensuite, on verra. L'idée, c'est de les accompagner. Puis après, chacun poursuit aussi sur ses propres objectifs, puisque des fois, ils sont différents aussi selon les restaurants collectifs. Donc pour ce projet, on a 6 établissements, 6 restaurants collectifs qui sont engagés dans Cool Food Pro. Donc on a la cuisine centrale de Cossé-le-Vivien, la cuisine centrale de Cran. Sur le pays de Château-Gontier, on a le collège Jean Rostand à Château-Gontier, le collège du département, la restauration scolaire de Château-Gontier sur Mayenne. Et puis sur le pays de Mélégret, on a le collège Maurice Genevoix et le collège Le Grand Champ, donc collège du département aussi. Donc on voit qu'on a une diversité aussi sur le territoire, et on a plus de 40 établissements scolaires indirectement qui
rattachés,
sont concernés.
Voilà.
Donc ça représente une part importante. Et l'idée aussi à travers ça, c'est de pouvoir permettre aussi aux cuisiniers d'échanger un petit peu aussi sur leurs pratiques. Donc il y a une réunion qui a pu les réunir, où chacun a pu partager aussi ses objectifs et un petit peu les leviers sur lesquels ils souhaitaient agir. Et après, c'est des leviers qui sont assez qui peuvent paraître simples, de passer tout son approvisionnement de, je sais pas, en pommes de terre locales et bio, mais ça nécessite quand même un changement aussi
dans les pratiques,
réorganisation dans la pratique. Donc c'est des choses qui sont tout à fait chouettes.
Donc du lien autour du mieux manger, du mieux consommer, donc un modèle aussi pour les enfants qui vont pouvoir bénéficier de ces repas équilibrés dans tous les cas, même avant ça devait l'être, mais avec des produits locaux et bio, ou en tout cas...
Voilà, ceux qui le souhaitent. Et puis c'est ça, c'est des leviers qui ont pour objectif de répondre aussi aux objectifs de la loi Egalim, voilà, qui veut 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Qui encourage aussi, bien sûr, à moins de gaspillage alimentaire. Ça, c'est vrai que c'est une ressource aussi, en tout cas un levier très important pour aussi réduire la facture budgétaire dans les cantines, parce que ça représente aussi une grosse masse, donc des économies sont possibles aussi sur ce levier-là.
Merci Louise Morel. Peut-être qu'on peut retrouver un petit peu les projets, tous les projets qui sont mis en place dans le Sud Mayenne sur votre site internet.
Oui, alors c'est le site du GAL Sud Mayenne justement, galsudmayenne.com, qui est le service énergie-climat et puis qui traite aussi des thématiques de la rénovation énergétique, d'accompagner s'il y a des besoins pour rénover sa maison ou s'il y a des questions, mais aussi sur la mobilité durable, si vous souhaitez avoir plus d'informations pour se déplacer autrement et puis bien sûr aussi sur l'alimentation.
Merci Louise Morel d'avoir été avec nous aujourd'hui. On continue cette émission de l'Agité du local et comme on est bientôt en week-end, on a un petit peu envie de faire la fête. Donc on écoute Normal de Johnny Jane. De retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Nous avons reçu juste avant Louise Morel qui nous a parlé donc du projet d'alimentation territoriale et donc de ces cuisines collectives dans le sud Mayenne. N'hésitez pas, si votre enfant est bénéficiaire de ce projet, à prendre contact avec le restaurant en question pour qu'il vous explique peut-être un petit peu les défis qu'il s'est lancé pour cette année scolaire. On termine maintenant notre exploration de l'espace Saint-Julien dans lequel nous a emmené Lucie ces deux derniers jours, parce que qui n'a pas envie d'un endroit où on peut aussi bien aller boire un verre ou un café, déguster des plats créés par un chef cuisinier et en même temps profiter d'une multitude d'activités proposées sur le lieu. Eh bien Saint-Julien, c'est à la cale, le café solidaire, que ça se passe. Vous avez bien entendu, j'ai dit café solidaire. Eh bien c'est parce que ce qui rend ce café unique, c'est que les employés du café sont tous porteuses et porteurs de handicap. On écoute Colombe Marie Dumont nous en dire un peu plus au micro de Lucie.
Colombe Marie Dumont, je suis responsable de la cale, qui est un café solidaire au sein de l'espace intergénérationnel Saint-Julien. Et ce café est dit solidaire parce qu'il emploie des personnes en situation de handicap. On a ouvert en février dernier, donc le projet est encore en développement forcément. Nous sommes dans la première année, donc il faut se faire connaître, on se construit pas à pas. Et en fait, il fait partie d'un ensemble, dans un projet plus grand. Et donc pour compléter cette dynamique intergénérationnelle, les bénévoles de la première heure ont eu le désir de créer un café qui permette l'inclusion en fait, des personnes en situation de handicap. Et alors on a vraiment eu cette chance depuis le début, puisqu'on a ouvert depuis février, d'avoir assez régulièrement du passage et des stagiaires. Forcément, nous, on ne se construit pas, puis on ajoute les stagiaires. C'est vraiment quand les stagiaires passent, on adapte notre façon de travailler à la personne, à ce qu'elle est, à ce qu'elle porte, et aussi à ce dont elle est capable. Donc là, on va avoir bientôt Bertie qui va arriver, qui est une jeune porteuse de trisomie 21. Bien sûr, on prépare le terrain pour qu'elle vienne, mais l'essentiel du travail, ça sera quand elle sera là, qu'on puisse travailler ensemble sur qu'est-ce qui lui parle et pour qu'elle puisse être un maximum en situation de travail.
Je crois le porto peut-être, non ?
Ouais. Sur laquelle on est vraiment le désir d'avoir cette ouverture sur l'extérieur, en fait, que n'importe qui puisse goûter ce qu'on vit à Saint-Julien d'intergénérationnel, de social et d'éducatif. En fait, on commence à avoir une réputation aussi sur cette bienveillance qui est vécue, sur la responsabilité qu'on donne, en fait, qu'on rend aussi à ces personnes en situation de handicap. Donc voilà, tout simplement, même tout à l'heure, quand vous avez croisé les quelques personnes qui étaient derrière le comptoir, elles étaient toutes en situation. Donc en fait, on voit qu'il y a quand même une certaine autonomie qui est possible et même une complémentarité entre les handicaps qui est assez impressionnante et qui même réjouit énormément parce qu'on voit que ça porte du fruit et que chacun peut avoir sa juste place là-dessus. Les personnes qu'on embauche ou qu'on prend en stage, qu'est-ce qu'elles sont heureuses de servir.
Alors, qu'est-ce qui est propre et qu'est-ce qui est sale, madame ? Vous avez mélangé propre et sale.
Ah, ouvrez la porte. Comment est-ce que ça se passe pour embaucher des personnes en situation de handicap ? Est-ce qu'il y a un encadrement qui est nécessaire ? Est-ce qu'il y a, du coup, vous parliez d'adapter l'organisation ?
Alors, en fait, on a été assez rapidement mis en lien avec le GIN et le Geste 53, qui s'occupent de l'accompagnement, justement, des personnes en situation de handicap pour les aider à trouver leur place dans le monde du travail. Et on est aussi en lien, notamment, avec le lycée Robert Buron. Eux, ils nous envoient facilement des personnes. Donc ça, c'est un peu la première étape avant qu'on ait des stagiaires ou des salariés ici.
Vous avez déjà 50 centimes.
En fait, selon le handicap de chacun, parce qu'il y a le handicap visible et invisible, donc visible, bah, trisomie 21, physiologiquement, les personnes sont marquées. Et par contre, s'il y a un handicap lié à la gestion des émotions, lié à l'aspect cognitif de la personne, c'est pas forcément visible. Et donc, on a eu plusieurs situations de détresse d'une employée à ce sens-là. Donc là, bah, on a fait toute une communication autour de ça, par exemple, sur le « ici, on apprend en prenant le temps ». Je m'attache à ce que, à chaque fois qu'il y a une situation où la personne est confrontée à une épreuve un peu particulière par son handicap, barrière dans la communication, barrière dans la compréhension ou autre, je vais prendre le temps avec elle de revoir la situation et on va trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Là, j'avais pris l'exemple de la communication. Ensuite, il y en a qui sont pas à l'aise avec le plateau au début. Je me souviens d'une stagiaire qui devait venir que pour une semaine. En début de semaine, elle n'osait porter qu'un seul verre à la fois. Donc on imagine la productivité. Et en fait, au fur et à mesure de la semaine, à la fin de la semaine, elle portait des plateaux avec 10 verres dessus et elle servait les personnes. Et puis elle commençait à prendre des commandes de façon timide. Mais en fait, en une semaine, on avait une personne qui s'était complètement métamorphosée. Parce qu'en fait, on acceptait de prendre le risque de prendre le temps. On n'a pas peur de prendre le temps de façon intelligente parce que les clients, ils viennent chercher quelque chose, mais que la personne qui travaille se sente en sécurité et aussi qu'elle se sente utile, en fait. Comme chacun cherche, au bout d'un moment, il faut que ça ait du sens. Et donc, si on reconnaît ce besoin de sens et on prend le temps de leur donner ce sens, eux-mêmes, ils s'épanouissent et on voit les fruits. Et derrière, bah, justement, on a plein de stagiaires. Là, je crois que la semaine prochaine, on a donc la jeune trisomique qui arrive, elle, en tant que salariée. On a une autre stagiaire qui vient en observation. On a une stagiaire actuellement. Donc en fait, on n'arrête pas et c'est ce qui fait notre jeu aussi. Le lundi et le mardi, on n'ouvre que sur le temps du midi. Et le mercredi après-midi, on ouvre et on met à disposition des jeux de société. Jusqu'à 20h30, 21h, en fait, on est ouvert. Nous avons les musicales, donc ça, c'est le jeudi soir. On invite des musiciens à venir jouer, ils sont bénévoles. Donc on a de la musique classique, de la musique celtique bientôt. On a un peu tous les genres et en fait, on est assez ouvert. On a même des lycéens qui viennent jouer. Et c'est très apprécié, notamment des résidents. Les personnes de la résidence senior sont les premiers à profiter de ce qui est proposé à la CAL. On est aussi dans des événements un peu particuliers. Là, aujourd'hui, on avait un repas portugais, repas à thème. Donc, c'est sur le temps du midi, mais une fois par mois, on a un repas sur cette thématique-là. Et bientôt, on va avoir le marché de Noël, grand classique de la période, avec une vente associative pour la résidence senior notamment. Parce que dans la résidence senior, il y a un système solidaire qui fait que tout est pensé pour que tout le monde ait les mêmes droits, les mêmes propositions et en fait puisse vraiment participer à tout ce qu'il veut. Et la semaine dernière, on a reçu une vente de livres au profit de l'association L'Oiseau refait son nid. C'est plus de 40 bénévoles qui accompagnent un seul jeune autiste. En fait, nous, on a eu la chance d'être soutenus pour créer l'ensemble de Saint-Julien. La CAL est encore en développement, on gagne à se faire connaître. Mais on a vraiment ce désir d'être un lieu de solidarité première où on peut organiser des choses au bénéfice d'autres personnes. Les personnes qui viennent travailler ici, elles apprennent et nous, on apprend aussi avec elles et d'elles.
Est-ce que chacun peut proposer des activités ? Est-ce que chacun peut être un peu acteur de tout ce qui est proposé ?
Oui, tout à fait. Par exemple, une résidente avait son petit-fils qui passait et qui prenait des photographies des étoiles. Et donc, en 2 jours, on a organisé ça et ça a été très apprécié. Il devait parler 1 demi-heure, il est resté 2h30 pour présenter son travail et en fait, comment il s'y prend pour prendre des photos, etc. En fait, tant que ça s'inscrit dans cette dynamique de projet social, éducatif et intergénérationnel, si on a moyen de faire vivre la CAL par une activité, une animation ou une autre, on est tout à fait preneur. C'est comme on a eu des demandes pour des peintures, etc. Alors, on n'est pas encore assez équipé pour permettre ce genre d'événement, mais je pense qu'à terme, on permettra à des artistes de montrer leurs œuvres sur des périodes ou autres. On a diffusé les matchs de rugby et on voyait autant des enfants que leurs parents, que les personnes de la résidence senior, que des jeunes étudiants. Et alors ça, c'était vraiment l'esprit de Saint-Julien et l'esprit de la CAL aussi. On peut pas faire ça toutes les semaines forcément, mais oui, pouvoir vivre en fait plus souvent des temps festifs, d'avoir un esprit de fête assez naturel. Trouver ce qui va faire que Saint-Julien est un lieu de fête et que les gens aient envie de se ressourcer en venant ici, quoi. Tous les jours est une fête finalement, donc pourquoi attendre des temps très fixes pour faire la fête ? Parce qu'en fait ici c'est fait pour vivre, c'est... Saint-Julien c'est un peu un cœur dans la ville, ça rayonne sur l'extérieur parce que moi je vis pas à Saint-Julien par exemple, donc forcément je parle de Saint-Julien à l'extérieur, je parle de la beauté de ce qu'on vit, des échanges, des difficultés aussi forcément comme on peut avoir entre les différentes générations, forcément par moments ça frotte, c'est plus les mêmes réalités entre les âges. Qu'est-ce qui m'a amenée ici ? J'ai fait mon stage de fin d'études ici au centre Saint-Julien. Tout simplement, je faisais un master en management de la solidarité et de l'action sociale. Et la dernière fois que j'ai vu mon responsable, une des questions, c'était un peu un classique, vers quel type de structure, vers quel type de public ? Et je me revois lui dire, mais moi, je m'intéresse à tout le monde. Ça peut être le handicap, ça peut être la vieillesse, ça peut être la petite enfance. Tant que je suis utile et que ça a du sens, je peux pas choisir. Je suis tombée sur Saint-Julien, où il y a toutes les générations, donc et le handicap. Et en fait, assez rapidement, il y a un esprit à Saint-Julien. Le sens de l'autre, et on le vit même dans l'équipe en global, parce qu'il y a l'équipe de la CAL, mais la CAL est rattachée donc à la résidence senior. Et en fait, l'ambiance d'équipe est incroyable. Avant qu'on me propose de devenir responsable de la CAL, j'en étais limite malade à l'idée de quitter cette ambiance parce que y a un sens du service qui est vécu, une bienveillance vraiment qui est charnelle, qui est palpable. Voilà comment je suis arrivée à Saint-Julien et ce qui me plaît, c'est vraiment ces valeurs vécues et ce désir de social, intergénérationnel et éducatif dans la bienveillance, le respect de la vie, le service de l'autre. Toutes ces valeurs sont des choses qui, moi, m'ont toujours habité et le fait d'être ici, je suis rentrée en résonance avec le lieu et ce qui s'y vivait et c'est source de vie pour tout le monde, quoi. Donc, voilà.
Avant de tendre l'oreille pour l'agenda culturel de la semaine, je vous propose d'écouter Chien Noir. Il sera en concert le 2 décembre au Théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Je vous en reparle tout à l'heure. On écoute Je veux, je veux, je veux.
Je veux de la lumière, Je veux voir à travers ta peau, je veux voir le monde. Je veux tout, je veux chaque seconde. Je veux que l'on vive fort, je veux que l'on vive vite. Je veux que le diable l'emporte, un jour on prendra la fuite. Je veux tout et tout autour, je veux sans mesure du possible. Tu sais, tout est question d'amour, puisqu'on tombe dans le vide. On danse solo dans l'espace, à l'aventure dans les néons. Je veux en démesure, je veux en millions, donner des titres à nos saisons. Oh, 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 oh. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux vivre debout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux tout prendre et prendre tout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux, je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Je veux enfin, non, je veux pas de certitude. Je veux pas de logique, d'exactitude. Je veux que ma tête bouge à chaque battement de cœur. Je veux que nos corps se touchent. Je veux avaler tes peurs. Je veux dévorer les tropiques. Que tu tournes cette fois ta langue dans ma bouche. Je veux dévaler les apics. Attendre que le soleil s'y couche. Je veux sauter dans le vide. Ne jamais revenir. Je veux jamais dire jamais. Je veux partir, repartir. Je veux prendre et puis donner. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux vivre debout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux tout prendre et prendre tout. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Je veux, je veux, je veux, je veux tout prendre et tout donner. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux ne jamais dire jamais. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux, je veux vivre debout. Je veux, je veux vivre debout. Je veux.
Notre agenda culturel de ce vendredi commence avec le théâtre de Laval. Le 28 novembre, vous serez trop près du mur avec le clown Typhus Bronx. Trop près du mur, c'est en fait le nom de son spectacle. Et pour vous donner un avant-goût, l'artiste se retrouvera face à son double scénique pour un tête-à-tête aussi profond qu'irrévérencieux. C'est un faux seul en scène qui abordera la question du libre arbitre, de la transmission et de l'oppression sociale. Notez bien ce rendez-vous, c'est le 28 novembre. Maintenant, allons sur Château-Gontier au Carré. Dans l'agenda de la semaine dernière, on vous parlait de la soirée à table qui a lieu ce soir à 19h30. Alors à table, c'est un moment convivial et artistique. Ce sont deux spectacles et un repas partagé entre les deux représentations. Parmi la grande richesse des propositions culturelles du territoire, c'en est une évidemment. Et je vous invite à regarder également la programmation de décembre du Carré, parce que le Carré va recevoir le concert dessiné Baladine avec l'autrice-dessinatrice Ilia Green. Autour de ce spectacle, il y aura une exposition et différents ateliers pour les petits et pour les plus grands. Rendez-vous sur le site internet du Carré pour réserver. On vous en parlera plus en profondeur la semaine prochaine, mais j'ai ouï dire que les places partent comme des petits pains. Restez bien à l'écoute. Et bien sûr, je vous parle aussi du théâtre L'Entracte, à Sablé-sur-Sarthe. September Cohen et Chien Noir se produiront sur la scène Joël Leteul le 2 décembre. Dans la JT du local, on aime beaucoup Chien Noir, on vous l'a fait écouter encore aujourd'hui avec son titre Je veux, je veux, je veux. C'est un auteur, compositeur, interprète qui a sorti cette année son troisième album, Apollo. Prenez le temps de l'écouter, c'est un amoureux des mots, sensible et il chante en français. Et moi j'aime bien quand il chante en français parce que ça me permet de vous dire les titres que je diffuse sans rien écorcher avec mon accent à couper le souffle. Voilà, et donc pour terminer cet agenda culturel, je vous rappelle que l'autre radio anime ce soir une table ronde à l'Hôtel de Ville de Laval avec pour thème l'accès à la culture, un levier dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette table ronde est en partenariat avec la Ville de Laval. Rendez-vous à partir de 18h30. C'est la fin de cette émission et donc le week-end arrive à grands pas. Ce soir sur l'autre radio, vous pourrez écouter Dance Hall Social Club à partir de 19h pour plonger dans une certaine nostalgie musicale. À 20h, c'est Tempus Fugit avec Fred et Plom. Ça parle musique, plutôt pop-rock brut de décoffrage pour Fred et plutôt psyché hard pour Tours, Plom. Les pépites de notre programmation continuent le week-end. Alors bien sûr, avec les ondes pataphysiques de Jean-Luc Bansard, vous pourrez l'écouter samedi à 11h, qui rendra hommage au poète Eugène Ionesco. À 13h samedi, on écoutera Rock Dreams. C'est une émission qui, en 30 minutes, vous permet de découvrir un groupe, un artiste. Pour terminer le week-end, je vous propose dimanche à 14h d'écouter H1000 pour un voyage, une randonnée à travers les chaînes montagneuses. Évidemment, je ne vous ai pas tout dit, vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation sur notre site internet. Maintenant, moi je vous souhaite un bon week-end, à l'écoute de l'autre radio, profitez, chérissez et faites surtout le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.